Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Nous analysons les shows de la WWE et aujourd'hui, un moment historique puisque nous analysons le Monday Night Raw qui a suivi le dernier pay-per-view de la décennie TLC. C'est l'heure de rendre des comptes et pour m'accompagner dans cet exercice, j'ai avec moi l'ami Chris. Salut Chris.
Salut Irem, salut peuple de Catch Up, ça va bien ?
Bah écoute, ça va pas trop mal. J'étais assez curieux de voir ce qui allait se passer là dans ce Monday Night Raw, puisque comme voilà, je vous invite à écouter notre analyse avec Chris de TLC. C'était un pay-per-view un petit peu étrange où pas mal de rivalité, de storyline avait été mise de côté. Et on va voir ce qui s'est passé là dans cet épisode du show rouge. Et justement, un grand absent de TLC ouvre le show. Seth Rollins est là. Il est accompagné de The AOP, les Author of Pain, les deux premiers hommes à avoir rejoint le bon côté de l'histoire, hein, comme il aime le dire. Alors là, il nous fait une petite tirade, hein, comme quoi on a dit de lui qu'il était le futur, hein, depuis ses débuts à NXT. Cette année, il a battu Brock Lesnar deux fois. Tout le monde en a parlé. Tout le monde parlait de cet exploit, hein, de Brock Lesnar. C'est marrant parce que je sais qu'on en a pas mal parlé à Catch Up, effectivement, de ce haut fait, hein, qu'il avait accompli, Seth Rollins, qu'on attendait qu'une seule chose, c'est qu'il batte Brock Lesnar et qu'il ramène la ceinture, qu'il prenne les affaires en main. Et puis finalement, on est en fin 2019, et puis c'est un peu un retour à la case départ, avec un Brock Lesnar qui brille par son absence. Mais une fois qu'il a fait tout ça, les gens ont commencé un peu à se retourner contre lui, comme s'il avait fait quelque chose de mal. Mais bon, voilà, c'est ça, être un leader, être un chef, c'est pas forcément faire plaisir à tout le monde, c'est faire des choix, prendre des décisions qui font avancer les choses. Kevin Owens, il avait visiblement pas compris ça, et du coup, il a été un petit peu puni, hein, pour ne pas avoir, saisi le sens de la mission qu'a Seth Rollins. C'est un leader, c'est un visionnaire, et il va nous conduire, il va conduire Raw et toute l'industrie du catch dans cette nouvelle décennie qui s'ouvre à nous. Ça se fera, peut-être il y aura, ça va être douloureux, ce sera peut-être un petit peu dans la douleur, mais voilà, c'est ça le progrès. Hein. C'est pas être assis dans son canapé en espérant que tout se fasse tout seul. Et Hopi seront là pour l'accompagner. Et il nous annonce que ce soir, il a quelque chose, une petite mission à remplir, et qu'on va pas aimer ce qu'il va faire, et qu'il est il s'en excuse d'avance. Seth Rollins, donc une sorte de héros complètement délusionnel, comme on dit, mais un heel du coup qui s'ignore un petit peu. Qu'est-ce que tu penses, toi ? Qu'est-ce que tu as pensé de cette intro ? Finalement, c'était important que Seth Rollins nous fasse une promo, même si c'était un petit peu étrange de ne pas avoir. Il n'était pas là dimanche.
Ouais, c'est bizarre. En fait, c'est marrant parce que Raw, tout au long de l'année, quasiment, aura fait tous ses openers avec Seth Rollins.
Ouais.
Seth Rollins face, Seth Rollins heel, on aura eu Seth Rollins sous tous les angles, hein, en réalité, hein, depuis le début de l'année. Mm-hmm. Finalement, on finit l'année comme on l'a commencé, quoi. Donc, voilà, sauf que maintenant, il s'est offert deux gardes du corps top molos. Et du coup, à la fin de la promo, il nous tisse qu'il a quelque chose à régler et qu'il prévient d'ailleurs que ce sera pas joli à voir. Mm-hmm. Donc, du coup, on se demande un peu ce qui va se passer. En tout cas, ça marche, hein, le heel turn, hein, parce qu'il est bien hué comme il faut par le public. Et il faut croire qu'ils ont réussi leur coup là-dessus. Bon, c'est un peu étrange parce que Seth Rollins, c'est quand même un main eventer. Et il y a une impasse totale et absolue sur le titre majeur de Raw, hein, puisque Brock Lesnar a totalement disparu. Il y a même pas mal de d'infos qui disent qu'on le reverra pas de toute façon avant 2020. Donc là, on est déjà assuré qu'on reverra pas Brock Lesnar d'ici le début de l'année. Et c'est quand même vachement surprenant, ça, hein, ce traitement du titre majeur à Raw. J'en suis quand même fort chafouin.
Ouais, parce qu'il nous avait un petit peu habitués ces dernières semaines. Il n'y a pas si longtemps que ça, Brock Lesnar, on le voyait beaucoup. Hein. On le voyait toutes les semaines quasiment. Ou alors, s'il n'était pas là, il y avait au moins Paul Heyman. Mais voilà, là, il a posé CRTT pour la fin de l'année.
Il faut croire, ouais, il faut croire. En fait, depuis les Survivor Series, on n'a plus revu Brock Lesnar.
Non, effectivement. Donc, bah, c'est vrai qu'à l'approche du Rumble, il va falloir un petit programme. Et là, on a Kevin Owens et Seth Rollins qui sont occupés. Est-ce que le First Contender est parmi ces deux hommes? Je ne saurais même pas te le dire, ça. Qui aujourd'hui peut prétendre à être First Contender pour le Rumble?
Bah ouais, on ne sait pas, parce que c'est justement pour moi un des gros problèmes. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rivalité d'installer autour du titre majeur, quoi. Et ça, c'est quand même compliqué. On n'est même pas capable de sortir des noms, finalement, de quel catcheur va venir se mettre en opposition à Lesnar. Et c'est vrai que tu dis, il y a le Rumble d'ici un mois. C'est quoi? C'est à la fin janvier, le Rumble?
Ouais, je crois que c'est le 25 janvier, je crois. Donc ouais, on a un mois.
Ouais, donc là, on est à un mois du Rumble. Et bah franchement, s'il y a un catch-upper dans le public qui est capable de nous dire quelle va être la carte au niveau du titre majeur, bah franchement, je suis très curieux de savoir.
Ah ouais, qui garde la DeLorean devant le studio et qui vient nous dire.
Voilà, exactement.
Voilà, on payera l'amende, s'il y a une amende, on payera les PV, il n'y a pas de problème. Ouais, en tout cas, moi j'aime beaucoup. Hein. Je regrette, je l'avais dit que... Finalement, mais c'est quand même plutôt bien écrit, cette évolution du personnage de Seth Rollins. Je regrette malgré tout que finalement, on ait offert à ce babyface la double fois la tête de Brock Lesnar. Et au final, le mec se retrouve à être le top heel à nouveau. Mais bon, il le joue bien, ce personnage-là. C'est vrai qu'il est très naturellement un heel parfait, hein, Seth Rollins. Et d'ailleurs, on verra un peu plus tard que bah, il agit tel un heel. On a eu, alors, je sais pas si t'as rigolé devant ce match, mais quand même, on se fout quand même pas mal de notre tronche. On a eu les Viking Raiders qui ont affronté les Good Brothers. Donc, on a toujours droit à des rematchs. Hein. On a des pay-per-views, c'est un poncif à la WWE. Alors, je sais pas à quel moment, est-ce que t'avais compris si c'était un match ou pas pour le championnat? Parce que moi, jusqu'à la fin, c'était un match pour le championnat.
Ah ouais? Ah bah alors là, pour le coup, moi, pas du tout.
Ok. Eh ben, parce qu'en plus, je crois que j'étais pas le seul, mais ce qui me semble qu'à un moment, Vic Joseph, un des commentateurs, qui est déjà pas mal botché la veille, à la fin du match, a vendu le fait que les Good Brothers étaient les nouveaux champions, quoi. Et c'est Corey Graves qui l'a... non, Samoa Joe qui l'a rattrapé en disant « Non, ils devraient être les nouveaux champions. »
Ouais, qu'ils allaient devenir les number one contenders officiels, quoi, dorénavant, quoi.
En tout cas, on a enfin eu un match du début à la fin sans table KFC. Un gros match qui a duré 20 minutes. 20 minutes. Assez proche de ce qu'ils avaient proposé ce week-end. Avec les champions qui ont commencé très fort. Et Anderson et Gallows qui ensuite, après, il y avait pas mal de pubs, hein, évidemment, ont réussi à isoler Eric. Hein, gros tag avec le comeback de Ivar. Encore une autre pub d'ailleurs, vraiment beaucoup de pubs dans cette émission. Et Anderson qui. Enfin, et Z aussi qui a placé son Magic Killer pour la victoire. On a donc une victoire de Z aussi. Donc, double victoire. Hein. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils avaient commencé leur introduction en rappelant qu'ils étaient les seuls à avoir battu les Viking Raiders et rebolote une deuxième fois. J'aime pas trop ça, cette espèce de booking là où on fait gagner les contenders dans des matchs sans ceinture et puis tu te dis bah ok, ils vont faire le jour où il y aura le match de championnat, cette fois-ci bah ils vont le perdre. C'est un bon match, mais c'est quand même une vieille formule, quoi.
Ouais, le match était plutôt bon et en plus qui se termine de manière clean, donc c'était presque surprenant vu ce qui s'était passé la veille à TLC. Voilà, il nous place les aussi en number one contender, mais enfin bon, on va vrai dire encore une fois un truc sur lequel on n'avait pas vraiment de doute, quoi, parce qu'on n'a pas vu d'autres équipes venir un peu se frotter aux Viking Raiders. C'est un petit peu ce que je reprocherais à la Tag Team Division Arrow, là, c'est que il pourrait être censé y avoir d'autres équipes un peu dans le move de la compète, mais bah, tout se passe entre les aussi et les Viking Raiders depuis quelques semaines, là. Et puis bah ça avance pas beaucoup à vrai dire quoi. Et bon bah là maintenant voilà, les aussi sont déclarés number one contender en gagnant un match qui comptait pour du beurre entre guillemets. Donc j'imagine que bah la prochaine fois qu'ils vont recroiser le fer là, le titre sera peut-être mis en jeu quand même.
Bah ce serait pas mal. Moi ça, en fait j'étais un peu fou parce que je dis mais c'est quoi ces champions, les Viking Raiders en fait gagnent seulement contre les jobbers, mais dès qu'il y a un petit peu de matos en face ils perdent quoi. C'est un peu pour l'instant c'est si tu dois faire une résumé la position des Viking Raiders qui sont quand même les champions de Monday Night Raw, ça c'est ils gagnent contre les jobbers, mais dès qu'en face il y a un peu de challenge et bah ils perdent.
Ouais c'est ça, c'est clairement ça. Je pense que si on faisait le décompte de leur match ouais depuis plusieurs mois, là, on se rendrait compte que, ouais, effectivement, ils sont à 100% de victoire contre les jobbers et, et ils perdent systématiquement contre des équipes qui tiennent la route. Quoi. Donc c'est un drôle de traitement, quand même, encore une fois, un drôle de traitement de la part des bookers sur leur équipe championne. Quoi. Et, puis moi, je trouve que la mise en avant des Viking Raiders, elle est quand même faible. Quoi. Même heureusement que finalement ils ont leur physique et tout ça et pour donner cette impression visuelle parce que sinon au final ils sont pas très très impressionnants dans leur règne quoi, c'est un règne un peu sans saveur.
Bah comme pas mal de règnes d'anciens NXT hein, malheureusement, mais c'est vrai que même leur gimmick c'est pas qu'ils sont à fond les gars, ils passent leur temps à hurler, ils essayent vraiment de pousser leur côté barbare, leur côté guerrier, etc. Mais au bout de 3 mois, c'est ridicule, quoi. Effectivement, c'est facile hein, de rouler sur des jobbers en mettant ton gros casque avec tes cornes de buffle, là. Mais moi, ils me donnent pas l'impression d'être des guerriers sauvages venus du Nord, toi, qui ont aucune pitié.
Ouais.
Et qui vont apporter la guerre et le chaos. Ils me donnent pas du tout cette impression-là. Au contraire, on leur fait rouler sur des jobbers pendant des matchs de 2 minutes et ils perdent contre des mecs qui ont été de la mid-card pendant des années. Quoi. Donc,
Ouais, et puis ils sont faibles en promo. Hein.
Ouais.
Très, très peu le micro. Et quand ils ont le micro, c'est pour pas dire grand-chose de toute façon. Là, d'ailleurs, on en a l'exemple type dans ce Monday Night Raw. Hein. C'est les aussi qui tiennent le micro. C'est les aussi qui rentrent, qui font une promo... en rentrant sur la rampe, c'est un peu eux hein, qui tiennent la rivalité à bout de bras au niveau du micro, hein, et c'est certainement pas les Viking Raiders.
Ouais. En tout cas, une petite célébration de The OC là, backstage avec AJ Styles, qui nous parle, voilà, il promet de prendre soin de Randy Orton. T'as lu Gallows à moi qui fait ah, tu veux de l'aide? Non, je vais le faire par moi-même et tout. Ils étaient morts de rire là. AJ Styles, il a l'impression qu'il a le... Il vit il s'éclate quoi en cette fin d'année. Il a vraiment la banane. Hein, ça fait plaisir de les voir là tous les trois. Ils marchent vraiment bien là.
Ouais, depuis le début. Hein. Depuis le début.
Donc on aura, ce sera le main event hein, AJ Styles versus Randy Orton. On en reparlera tout à l'heure. Eric Rowan continue. En parlant de mecs qui roulent sur des jobbers, bah, Eric Rowan est toujours avec sa petite cage. Il envoie bouler les intervieweuses au backstage. Et il détruit les jobbers locaux.
Ouais.
On a eu une vidéo un peu étrange du retour de Liv Morgan. Liv Morgan, elle est dans une espèce de sa salle de bain, une grande salle de bain, et elle nous dit qu'elle doit se détruire. Elle doit se détruire elle-même afin que la vraie Liv Morgan puisse à nouveau apparaître. C'était un petit peu étrange. On nous parle déjà de la jurisprudence Emmalina. Est-ce que tu as déjà quelque chose en tête sur à quoi t'attendre pour le retour de Liv Morgan ou vaut mieux pas essayer de deviner?
Oh, je cherche pas trop à savoir parce que bon, Liv Morgan est packagée. On va voir en quoi, on va voir comment. Et puis bon, à vrai dire, depuis le début, elle navigue un peu à vue, elle est vraiment, c'est la low card, mid card féminine, Liv Morgan. Elle était tant qu'elle était avec leur Riot Squad, je pense que ça passait plutôt pas mal. Ouais. Apparemment, ils ont un peu l'intention de la pusher de manière solo. Donc, écoute, on va voir ce que ça va donner, quoi. Liv Morgan, c'est quand même pas le haut du panier de la division féminine, donc je suis un peu curieux de voir justement de quelle manière ils vont la repackager cette fille-là, quoi, parce que ça me paraît difficile de la pusher très très haut sachant en plus tout ce qui va arriver de NXT au niveau féminin dans les prochaines semaines, prochains mois, quoi.
Bah tiens, justement, alors tu me tends la perche, je la saisis. En parlant de filles de NXT, on a eu un petit peu plus tard un match entre Asuka et Diona Purrazzo, qui voilà, d'ailleurs elle est de NXT, mais ça fait un bail qu'on l'a pas vue.
Ouais, alors là par contre, je t'avoue que j'étais hyper surpris parce qu'elle a été présentée comme une espèce de force de NXT.
Ouais.
Regarde NXT toutes les semaines, ça fait du mois que je l'avais pas vue cette fille.
Qu'est-ce que c'était que ça ? Alors, c'était cool parce que, bref, je sais pas que je l'apprécie particulièrement, mais c'était comme un beau nom qui avait été signé à l'époque pour le Mae Young Classic, mais ça n'a jamais rien donné. Je sais pas ce qu'elle fait, cette fille-là. Est-ce qu'elle fait seulement les tournées, mais...
Elle est venue jobber pour Asuka.
Elle est venue jobber pour Asuka, effectivement, en 4 minutes, la soumission, et emballée, c'était pesé. Victoire d'Asuka, on a vu entreaperçu un petit peu Kairi-sen avec sa petite ombrelle. Donc elle a fait un petit coucou, mais elle n'est pas allée plus loin.
Ouais, elle est juste venue accompagner vite fait sur la rampe sa collègue, mais elle a vite disparu.
Ouais.
Elle a pris, si vous n'avez pas écouté notre review TLC, elle a pris très 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 cher Kairi-sen à TLC, et d'ailleurs à signaler, j'ai vu une petite vidéo où on voit Becky Lynch qui a été quand même super pro, et parce que Becky Lynch à la différence de Charlotte, s'est complètement rendu compte de ce qui se passait avec Kairi-sen.
Tu veux dire, elle a pas mis des claques dans la tête de Kairi-sen parce que Kairi-sen a botché une prise et qu'elle était pas contente.
Ouais, non, et elle a profité en fait d'un moment où les caméras étaient certainement un peu ailleurs en train voir l'action du côté d'Asuka, et c'est elle-même qui a évacué pour la fin du match Kairi-sen sous le ring. On la voit carrément, elle pousse de manière assez discrète, hein, mais elle pousse Kairi-sen doucement, de manière, on sentait vraiment qu'elle sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout, et en fait, elle évacue tout simplement Kairi-sen sous le ring pour la fin du match.
Ah, d'accord. Et du coup, ça explique pas mal le gros cut dégueulasse qu'ils avaient fait avec la brawl.
Ouais.
Et on n'avait aucun visuel de victoire parce qu'en fait, elle pouvait pas monter pour célébrer sa victoire, quoi.
Ouais, je pense que ce brawl, en fait, ça a été un truc qui a été peut-être un peu organisé justement au dernier moment parce que je pense que l'arbitre dans l'oreillette a dû dire « Oulala, ça va pas du tout, on va pas pouvoir faire la célébration avec les deux championnes ». Et donc du coup on a dit bon bah Reigns et Corbin allez vous mettre dans l'arena maintenant.
Ceci dit finalement si vraiment ça s'était improvisé tu peux dire c'est ils sont pas trop mal démerdés, ça sort évidemment que ça faisait un peu bizarre, mais ils ont quand même pu improviser un spot avec le spear et tout finalement. Bon, bah, écoute, effectivement, en tout cas, là, on est rassuré. Elle est à nouveau sur ses deux pieds. Le programme pour Asuka, il est assez clair dorénavant, puisqu'on a une petite interview de Becky Lynch juste après, avec Charlie Caruso. Elle a perdu, hein, Becky Lynch, la veille. Elle a enchaîné les défaites, hein, d'ailleurs, hein, Survivor Series également. Et effectivement, Asuka officiellement, bah, Becky Lynch, jamais elle ne l'a battue. Et du coup, bah, elle a envie, elle a besoin d'Asuka, elle veut la battre, et ça nous annonce déjà, au moins là, on nous a booké quelque chose pour le Rumble d'ores et déjà.
Ah ouais, voilà, là, pour le coup, moi j'étais assez content de la promo de Becky Lynch, parce que je suis totalement client d'une rivalité entre Asuka et Becky Lynch, là, hein. là franchement, ça serait... La championne de Raw face à la championne tag team, là, ça fait un beau line-up... en attendant de voir un peu ce qu'ils vont faire avec Charlotte, si Ronda va revenir, et puis je pense que quand même là, comme on arrive dans la période du Rumble, hein, donc là au mois de janvier, on va peut-être avoir une ou deux montées de NXT, et je suis quand même très curieux de voir quelles filles vont monter de NXT à l'occasion du Rumble, sachant que cette semaine, il y a quand même un énorme match féminin du côté de NXT, puisque pour le NXT Championship, on va avoir un Rhea Ripley versus Shayna Baszler.
Ah oui, cette semaine.
Et ouais, c'est cette semaine, c'est ce soir. Et du coup, ça me paraît bon. La division féminine à Raw, de toute façon, me plaît bien. Et là, moi, je suis totalement client d'une feud Asuka Becky Lynch. Yeah.
Ah bah clairement c'est ce qu'on nous annonce avec cette grosse victoire d'Asuka face à Deonna qui a pas été complètement dans l'ombre. Elle s'est bien battue suivie de l'interview de Becky Lynch. Bah voilà, on va laisser peser. Hein. C'est assez simple finalement hein, quand on veut. Allez, je retourne un petit peu en arrière parce que là on a beaucoup avancé avec la division féminine. On a eu une célébration pour la victoire de Bobby Lashley avec Lana. Je suis sûr que tu as beaucoup apprécié cette séquence.
Là, mais c'est pas possible. Tu vois, on a fait la review TLC, on a dit que c'était pas fini cette histoire Lashley-Rousseff. Et bah voilà, hein. Dès l'euro du lendemain, on a confirmation. Tout cela n'est pas fini.
Non, c'est pas fini. Lana qui s'est encore embrouillée là, elle fait trop des caisses, ça dure une plombe et franchement elle sait vraiment pas faire une promo toute seule quoi, parce que elle bouffe tous les mots, elle se plante, elle botche, elle peut pas faire une promo sans un seul botch. Elle fait la promo de son Instagram, son copain Lashley a battu Rousseff, donc Lashley c'est le plus beau, c'est le plus fort, elle le désire, et du coup elle lui demande de lui demander, c'est important, elle lui demande de lui demander de la demander en épousailles. Et j'ai adoré la tête de Bobby Lashley. Et là, c'est dommage, ils ont vraiment, je pense, loupé un truc à faire, puisque Lashley, du coup, il semble un petit peu pris de course et surtout, il a l'air circonspect, il a pas l'air d'être chaud pour demander Lana en mariage. Et d'ailleurs, il dit ouais, j'aime pas trop qu'on me dise quoi faire. Et là, limite, les gens étaient en train de l'applaudir, toi, genre, ouais, t'as raison, Bobby. Voilà. En fait, il fait, sauf quand c'est toi qui me demande. Et du coup, il la demande en mariage. Et c'est devant nous, voilà, la naissance du plus gros, le power couple, le couple phare de la WWE dans les années à venir. On va donc avoir notre habituelle séance de mariage à la WWE.
Voilà. On est lancé sur un. Voilà, on va avoir donc un Raw ou un pay-per-view. Ouais, on va se retrouver certainement avec. Ils aiment bien la WWE, hein, ça fait 40 ans que ça dure. Hein.
Ouais.
Ça fait 40 ans qu'on a le droit, tous les un an ou deux ans, à un mariage. Et voilà, et en général, les mariages à la WWE, de toute façon, partent toujours en live, sauf une seule exception. Il n'y a eu qu'une seule exception dans l'histoire de la WWE où un mariage s'est bien passé sur le ring.
Laquelle ?
Ça a été le Macho Man, Miss Elizabeth.
Bien sûr.
Où Vince McMahon, pour tous les services rendus par le Macho Man, avait accepté que ça soit un mariage qui se passe de manière totalement traditionnelle. Mais sinon, les amis, les mariages à la WWE, ça part toujours en couille, donc à ton Rousseff chaud comme de la braise le jour du mariage entre Lashley et Lana. Mais bon, comme Lana, comme tu l'as bien dit, va certainement encore trouver le moyen de nous botcher même la cérémonie de mariage de toute façon. Donc je m'attends au pire.
Ouais, c'est vraiment c'est frustrant parce que c'est bas du front, ces trucs là, c'est idiot et tout, mais au moins il y a toujours moyen au moins de t'éclater, de s'amuser. Mais les acteurs là, enfin les gens qui sont concernés par cette story, ils sont tellement mauvais. Mauvais, il n'y a que Rousseff, et Rousseff il peut pas tout faire, il veut pas tout sauver quoi, mais les deux autres c'est juste, enfin autant Lana que Bobby Lashley, mais il a le cerveau éteint autant que Kairi Sane hier soir quoi, enfin dimanche soir, parce qu'à un moment donné il était mais genre complètement ailleurs. T'as Lana qui fait Bobby Lashley, ouh, enfin toi le mec elle est en train de lui parler pour lui demander de passer à la séquence d'une demande en mariage, et il avait le regard vide. Il était regardé dans le public, il était complètement ailleurs. Enfin, je sais pas, hein, ce mec, c'est pareil, ça connecte pas dans sa tête. Hein.
Non, mais il est perdu. Mais je pense qu'il est utilisé tellement mal que de toute façon, le pauvre.
On lui en demande trop.
Ouais, je crois qu'on lui en demande trop, tout simplement, à Bobby Lashley. Puis là, voilà, ça fait des semaines et des semaines qu'on l'a lancé dans cette rivalité de cœur, là, dans ce trio maudit, là. Et puis, il n'est pas servi, hein, le Lashley, hein, parce que s'il avait encore une Lana qui était efficace au micro, etc. Mais non, tous les lundis, elle vient, et tous les lundis, elle botche.
Franchement, moi, je m'attendais vraiment à ce qu'il joue la carte de Bobby Lashley qui refuse, en fait, cette demande en mariage, et que en fait ils se rendent compte que Lana, elle est terrible, c'est pas une fille bien, et en fait je l'aime pas tant que ça, et que finalement au bout du bout, avec Rousseff, ils aient finalement un point commun et qu'ils se retrouvent à devenir potes parce qu'ils ont la même ex complètement dingue qui leur court après, toi. Ça pourrait être un angle, je pense, assez sympa à explorer l'année prochaine. Avoir Rousseff et Bobby Lashley ensemble, dans une petite tag team, par exemple, ça pourrait être les deux
gros gosses. Ouais, pourquoi pas. Mais pourquoi pas aussi arrêter.
Oui, non, mais j'essaye de sauver le truc en partant du principe que ça ne s'arrêtera pas.
Pour qu'on puisse parler d'autre chose à catch-up que de cette rivalité totalement abominable. Quoi.
Allez, et on va parler d'autre chose, justement, si tu veux.
Dans mes awards de 2019, je pense que dans la pire rivalité de l'année, là, on est pas loin d'avoir trouvé un vainqueur. Hein.
Allez, bon, Hotshoof nous a ressorti sa vieille promo sur John Cena. Tu te souviens, il avait déjà fait le coup.
Oui, il l'a déjà fait à quelques occasions. Et ça, c'est drôle, pour le coup.
Quel coup, il était petit, regardez John Cena, parce que, évidemment... Impossible.
Bah oui, vu qu'il est plus âgé que John Cena.
Et donc, il a toujours voulu gagner le titre US. Et du coup, ce soir, il va participer à un gauntlet match. Au début, j'ai dit, mais de quoi il parle là? Parce que ce soir, on a un gauntlet match pour devenir first contender au titre US. Donc, c'est très drôle, hein, comme à chaque fois, Tchouf. Il veut fusionner. Enfin, il veut être double champion. Hein, US et 24-7, 7-11 champion of the world. Et du coup, on a eu un gauntlet match qui a duré une heure.
Et ouais, gros gauntlet match. Ça faisait longtemps, hein, je crois que depuis le gauntlet que Rollins avait gagné, je ne sais pas si tu te souviens,
ouais.
Rollins était resté quasiment une heure sur le ring, quoi, en battant tout le monde. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un gauntlet aussi long.
Ouais, alors, on ne va pas vous mentir, la qualité des participants était un peu plus, on va dire... aléatoire qu'à l'époque de l'exploit de Seth Rollins.
Ah ouais, c'est clair, c'était pas tout à fait le même line-up.
Puisque R-Truth commence, il est opposé à Tozawa, qui va l'éliminer. Après une petite passe d'armes entre les deux. Et c'est Ricochet qui est le suivant. Donc, déjà, on monte un petit peu en gamme, on va dire.
Ah oui, mais oui, qu'on monte en gamme, complètement. C'est Ricky Labelle qui arrive. Ensuite, ça amène autre chose sur le ring.
Ouais. On place des dropkicks, des tentatives de soumission, springboard clothesline de Ricochet, double knee et shooting star press de Tozawa, mais c'est bien l'ancien champion US, Ricky, qui décroche la victoire, ouais, le recoil là, pour éliminer Tozawa. Petite surprise après, avec Matt Hardy.
Et ouais.
Qui veut delete Ricochet. Donc, Matt Hardy, c'est pareil, chaque semaine, il nous fait un petit best-of pot pourri de tous ses gimmicks. Hein.
Ah ouais, c'est incroyable, hein, t'as vu, hein, dès qu'il rentre, il nous place la totale, quoi. Le Matt Hardy des Hardy Boys, delete, le Matt Hardy de tout ce que tu veux. Wonderful!
Il place le side effect pour le compte de deux. Ensuite, on a Hardy qui place un petit peu plus tard aussi une Razor Edge Bomb pour le compte de deux. Un peu, voilà, il est un peu frustré, il n'y arrive pas puisque c'est le comeback de Ricochet qui place donc son side effect, Shooting Star Press et à la fin, le Twist of Fate est contré pour la victoire donc de Ricochet qui élimine le frangin Hardy. Umberto Carrillo arrive ensuite, belle passe d'armes entre les deux, mais Zelina Vega arrive pour observer un petit peu tout ça. Ricochet place un shooting star press sur Carrillo, et à la fin, Ricochet est éliminé par Carrillo, puisque... il y a un moonsault de Carrillo. Mais je ne sais plus, est-ce qu'il y a une intervention en ce moment? Non, c'est après l'intervention d'Andrade.
Ouais, parce que pour le coup, Carrillo, il a un gros moment fort. Hein. Mm. Et d'ailleurs, parce que moi, j'espérais que Ricochet allait aller au bout du gauntlet match et qu'il allait se retrouver face à Andrade, parce que j'étais particulièrement client d'un final Andrade-Ricochet. Bon, ils ont décidé de continuer dans la rivalité entre Carrillo et Andrade, quoi. Mais faut reconnaître que Cario, il termine avec un gros moment fort là, où il enchaîne, il met un disaster kick, un destroyer et un moonsault de la troisième corde pour finir sur le tombé.
Ouais.
Donc je rends à César ce qui appartient à Cario et j'avoue qu'il termine face à Ricochet de belle manière.
Et donc, eh ben, ils sont rejoints par Andrade, il attaque Cario par derrière, place son double knees. Ça se termine donc dans les barricades, les DDT, mais du coup, le match n'a jamais vraiment commencé, je crois, officiellement entre les deux.
Ah bah si, parce que dans un gauntlet, si tu veux, pas à chaque fois qu'un mec arrive, hein, là, c'est au début qui allait jusqu'à la fin. Moi, j'ai trouvé qu'Andrade était particulièrement vénère pendant ce truc. L'affrontement, il est assez court.
Avec son œil poché.
Ouais, ouais, et puis Andrade, il trouve quand même le moyen de coller un DDT sur le béton, quoi, puisqu'il a... Et alors, moi, c'est là où tu vas m'expliquer, parce que moi, j'ai eu un espèce de flottement à ce moment-là, quoi. C'est, il n'y a pas eu de décision finale.
Ben non, c'est pour ça que je me disais, est-ce que cette dernière manche n'a pas été validée, parce que ça se termine en no contest.
Ça se termine en no contest, d'accord. Parce on est bien d'accord.
Cario arrive pour voir comment va Cario, et Andrade s'en va.
Ouais, c'est bien ça. Ok, donc j'avais bien tout compris.
Du coup, à la limite, c'est un double compte à l'extérieur, toi.
Ouais, c'est limite un double décompte à l'extérieur. Ouais, on n'est pas loin. Ouais, effectivement. C'était assez étrange, cette fin de gauntlet, quoi.
Bah ouais, parce que ça commençait plutôt pas mal. Alors, il n'y avait pas du star power de démentiel. Il n'y a pas eu d'Iron Man qui a été du début jusqu'à la fin, mais il y a eu quelques belles passes d'armes. Ça durait quand même une 50 minutes cette affaire et à la fin on a aucun prétendant, aucun first contender. Donc faire un gauntlet match d'une heure et qu'à la fin personne ne gagne.
Ouais, c'était un peu laid quoi. Surtout que bon, je sais pas ce que t'en as pensé, mais je pense que Andrade avait et se serait retrouvé en number one contender face à Rey Mysterio. Je pense qu'on aurait été bien satisfait. Ça nous promettait une belle affiche, non?
C'est exactement ce qu'il fallait faire. Fallait tout à fait. Andrade arrive, il profite de sa position de dernier entrant pour faire vivre un enfer à Cario qui a, comme tu l'as dit, avait fait une belle prestation. Donc il avait déjà gagné entre guillemets en éliminant Ricochet. Il avait fait une belle prestation. L'autre, il en profite. Il est opportuniste. Il le passe à tabac. Il gagne salement, mais il gagne quand même. Et après, tu déroules la séquence suivante. Tu as quand même Rey Mysterio qui vient checker Cario parce que ça va mal. Et après, tu as la suite. Donc, avec Seth Rollins et Eopi qui débarquent. Seth Rollins, il a la barre de fer de Rey Mysterio. Il tabasse. Enfin, c'est pas lui hein, à ce moment-là. C'est Eopi tabasse Rey Mysterio. Seth fait, oh les gars, on se calme. Écoute, Ray, c'est pas cool. Cette barre de fer que j'ai avec moi, c'est celle qui a servi à Kevin Owens alors qu'il m'a tapé avec. C'est toi qui lui as filé. Il hésite un peu. Et puis, comme ça, c'est en mode vraiment méchant qui réfléchit à voix haute. Fait, bon, allez, t'as de la chance. Ton jour de chance, justement. Je te laisse tranquille. Et finalement, il revient. Il lui place. Le blackout, là.
Le curse tombe,
effectivement, pour parce que c'est quand même un méchant, après tout. Et du coup, il s'en va, et c'est lui qui challenge Rey Mysterio pour le titre US la semaine prochaine.
Ouais, alors là, pour le coup, vraiment un truc complètement dingue, quoi. Golf and Back pour accoucher d'une souris avec Andrade qui évacué complètement de l'équation. Et finalement, c'est Seth Rollins qui se retrouve en challenger numéro 1 du titre US. Donc, impasse totale, encore une fois, titre majeur d'Euro. Et Seth Rollins est envoyé dans la title picture de la mid-card.
Ouais, bon, ça, c'est classique. Hein. C'est classique. Tu perds ton titre majeur. Tu vas récupérer le titre secondaire. Quoi. C'est malheureusement l'attitude qu'ils ont également. Et alors, c'est un beau programme hein, en soi, Rey Mysterio, Seth Rollins pour le titre US. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage d'avoir du coup balayé tous les mecs qu'on a vus pendant 50 minutes avant.
Ouais, et puis en plus, sachant que le Raw de la semaine prochaine ne sera pas en live. Et because Christmas, Noël. Et donc du coup, il va falloir faire gaffe à pas tomber sur les nouvelles, tous les spoilers qui vont traîner toute la semaine sur le Raw de la semaine prochaine.
Ouais, faites attention, chers auditeurs, là, ouais.
Ouais, méfiez-vous, là, dans les semaines où quand Raw est annoncé, enregistré, en général, la semaine précédente, je sais que, par exemple, sur la chaîne de WrestleMania, c'est déjà lancé, quoi, les spoilers sur le Raw de la semaine prochaine. Donc, méfiance.
Bon, bah voilà, donc, bah, un programme déjà pour Rey Mysterio et Seth Rollins qui est lancé.
Bon, ceci dit, ça devrait être pas mal. Un match Rey, quoi. Je pense que in-ring, ça devrait être pas trop mal du tout.
Ouais, et puis il était bon, hein, j'ai trouvé sa petite promo là, en vieux méchant de film un peu mafieux comme ça, où les mecs jouent un peu au chat à la souris, enfin genre, non mais c'est bon, t'inquiète, vas-y, tu peux partir, je veux pas, tu crains rien, et puis en fait le mec se retourne et baf, un coup dans la tronche, ça lui va vraiment comme un gant ce personnage, donc il le tient bien là.
Ouais.
On arrive au main event, Randy Orton et AJ Styles, un match pour l'honneur, qui va voir la victoire de Randy Orton, après quelques minutes au début, qui était mené par Styles, tentative de superplex d'Orton qui a avorté, le dropping DDT d'Orton qui place, Orton qui veut faire le RKO mais Styles qui contre. On tente le calf crusher, puis le phénoménal forearm, mais Orton le chope mid-air avec le RKO. Bon, pas de grosse surprise finalement sur tout ce déroulé du match. C'était un petit peu peinard, un petit peu tranquille, mais les deux hommes ont bien délivré. Et surtout, après, on a eu le beatdown, Karl Anderson Gallows qui débarque, les Viking Raiders qui viennent également, mais c'est bien Z aussi qui clôt le show en étant debout sur leurs pieds au milieu des cadavres. Donc on a eu un beau petit main event avec une petite Orton qui a vendu une blessure au genou qui était pas trop mal et un RKO qui était pas le RKO le plus dingue de l'année mais
ouais légèrement foiré d'ailleurs un peu.
Ouais c'est ça, il y avait un petit contretemps là, ils étaient pas, on l'a senti vraiment venir quoi.
Mais parce qu'ils étaient trop dans la routine, moi, j'ai trouvé, tu vois, dans ce match. Ouais. J'ai trouvé que le match, chacun déroulait la routine. On avait l'impression que, bon, il n'y avait pas... en même temps, il n'y a pas d'enjeu particulier, quoi, dans cette rivalité, quoi. Donc, du coup, on ne sait pas trop où ça nous mène. Le match était pas mal, mais c'était pas mal. Finalement, c'était le brawl à la fin était presque plus sympa que le match en lui-même, quoi.
Ouais, même si les Viking Raiders, là, décidément, ils arrivent, les mecs se font rouler dessus assez rapidement.
C'était pas leur soirée. Hein.
Ils
perdent le match en intro, et puis après, derrière, ils se font démonter. ils se font démonter pendant le brawl de fin. C'était pas la soirée des Viking Raiders.
Non, il va falloir un petit peu se retrousser ses manches là et puis essayer d'aller glaner quelques bons, retrouver le momentum là pour les Relos. On arrive au mot de la fin si tu veux bien, c'est l'heure de partager ton top, ton flop et ta note s'il te plaît.
Eh ben écoute, c'était pas un gros folichon hein, le moins qu'on puisse dire.
Non.
Mon flop, sans surprise, je ferai la LHP parce que là vraiment c'est vraiment c'est vraiment laid quoi. Ouais, je crois qu'on a déjà tellement dit de choses sur cette rivalité qu'on arrive un peu au bout, on n'arrive même plus à avoir d'arguments, même dans le bad, on n'arrive même plus à avoir d'arguments, quoi, tellement c'est mauvais, quoi. Et puis, bah, Lana qui botche ses promos, hein, Lashley qui a les yeux, ouais, comme tu l'as dit, dans le vide. Le mec, il a un courant d'air qui lui passe entre les deux oreilles.
Donc, oh la vache.
Donc, non, c'était super mauvais. Il est temps que ça se termine, mais en fait, ça ne se termine jamais. Donc voilà. Donc on va avoir droit au mariage, Lana Lashley. Donc je leur mets mon flop sans hésitation. Mon top, et ben, j'ai beaucoup de mal à trouver mon top. Et du coup, je vais me faire plaisir et puis je vais faire un peu enragé Giscard comme ça. Et je vais le donner à Ricochet dans le Gauntlet match parce que je l'ai trouvé super bon. Super belle, voilà, il bat Tozawa, il bat Matardi. Bon, il se fait finalement battre par Humberto Carrillo parce que il fallait continuer un peu la rivalité entre Carrillo et Andrade. Mais j'ai trouvé que Ricochet a grave délivré la marchandise pendant ce match. Il a été super bon, bien appuyé par le public. Et Ricky, moi, je veux le voir plus haut, quoi, plus haut dans la carte, quoi. Moi, je le trouve phénoménal, ce catcheur, quoi. Donc, c'est vraiment, il est incroyable, quoi. Et j'ai beaucoup apprécié, en fait, que un Matardi, qui est un vétéran connu et reconnu, qui vienne mettre over comme ça un jeune. J'ai trouvé ça super. Donc, voilà. Donc, moi, je vais donner mon top à Ricky. Je t'aime, Ricky. Et puis, bah, ma note, ça va être, vraiment. Je suis vraiment pas éclaté devant ce round, hein, et malheureusement là ça fait plusieurs rounds de suite, et puis bah moi je déplore totalement l'absence absolue du titre majeur dans le show rouge. On a presque envie de dire qu'en ce moment à Raw le titre majeur c'est le titre US, hein. C'est quand même terrible de dire ça.
Ah bah ouais, c'est ça.
Et donc je vais lui mettre un 2,25 à ce round.
Mmh. Oh, écoute, c'est tout à fait à ton honneur d'oser moins que la moyenne. Moi, mon flop, allez, pour changer, je l'aurais bien mis comme toi, cette séquence horrible de Lashley et Lana. Je le donnais à ce gauntlet match qui a fait un gros flop à la fin.
Je pense
que là, il y avait vraiment quelque chose de différent à écrire, parce que arriver sur un no contest après une heure de baston, Andrade qui s'en va alors qu'il aurait pu glaner la victoire, c'était pas très clair, c'était assez mal foutu.
Ouais, Andrade, il aurait même pu taper une crise, hein, d'ailleurs, à la fin.
Bah ouais.
Terminer mon match, c'est moi qui suis en train de dominer, en train de gagner, c'est quoi ce bordel, quoi, tu vois.
Ouais, là, non.
On l'a pas signalé, mais t'as remarqué quand même que entre là, je sais pas, tout d'un coup, ce lundi soir, les bisbis qu'il y avait entre Zelina Vega et Andrade, tout a disparu. Tout a...
Ouais, il y a toujours une espèce de pas de tension, mais. Ah ouais, enfin, clairement, on a un peu rétro-pédalé là sur l'affaire.
Ouais.
Donc, moi, ça me dérange pas, mais faut se décider. Hein, faut se décider.
Ouais, voilà, on nous vend un truc pendant 3 semaines et d'un coup, bim, ça disparaît, quoi.
Complètement con. Et mon top, je vais le donner à Seth Rollins. J'ai beaucoup aimé ses promos. J'aime beaucoup le personnage. Je trouve qu'il a beaucoup d'allure. Donc, c'est un peu le seul. Franchement, quand tu regardes, c'est un peu le seul personnage vraiment un peu de qualité qui a émergé ce soir. En dehors de ce qui s'est passé entre les cordes, je veux dire. Tout le reste est un petit peu moyen. Il n'y a pas d'enjeu. Hein. C'est assez étrange, hein, finalement. On sent pas, il n'y a pas vraiment d'enjeu dans toutes ces histoires-là.
Ouais.
Les choses se passent et c'est tout, quoi. Donc, écoute, moi, je vais mettre un 2. Je vais mettre un 2 à ce Monday Night Raw. C'était pas terrible. Et puis, avoir un gauntlet match d'une heure qui sert à rien, c'est un peu du temps perdu, mais c'est un peu dommage, quoi. Bon, bah voilà, c'est donc l'heure de nous quitter. Je vous rappelle, vous pouvez nous trouver en audio sur toutes les plateformes habituelles, également sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. Je te remercie, Chris, de ta présence.
C'est moi, mon bon Yerem.
On vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut.
Salut, Yerem. Salut, Patrick Catcher.